Kiosque Magazine.
Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes du Canal M pour ce Kiosque Magazine du lundi 16 mars 2015. Au micro, Franceline Nieuviard. Je suis heureuse de vous accueillir ce matin où, pour la première fois, je suis seule dans le studio. Où sont mes deux compagnons habituels? Roger Roy est absent et Serge Hamelin, encore en voyage dans le sud pour quelques jours. Mais je ne me sens pas vraiment seule. Je vous sais à l'écoute et Jean-Sébastien Laliberté est en régie pour mener cette émission à bon port. Merci à chacun. Alors, comme tous les lundis, les articles que je vais vous présenter sont dans le thème « Culture et société ». Je les ai choisis d'abord dans la revue L'Itinéraire du 1er mars 2015. Inspirée par la Journée internationale de la femme qui avait lieu le 8 mars, il y aura 4 portraits de femmes de l'ombre, un texte de la directrice Christine Richard, de la directrice de l'Itinéraire Christine Richard à propos de sa mère et des générations X et Y, et une entrevue d'Isabelle Blé, porte-parole de l'organisme Trêve pour elle. Et puis dans la revue Le Bel Âge de mars 2015, 2 articles. Un petit déjeuner équilibré et gare au syndrome du canal carpien. Enfin, un article lu dans la presse plus du 10 mars 2015 à propos des mauvaises nouvelles. Voilà le programme, le menu pour la prochaine heure. Alors pour débuter, on parle de X en Y, on parle des générations, par Christine Richard, directrice générale de l'Itinéraire. Pour marquer la Journée internationale de la femme qui se tient chaque année le 8 mars, j'ai voulu parler de mon héroïne à moi, ma mère, celle à qui je dois d'être devenue la femme que je suis aujourd'hui. Ma mère est née en 1940, année où le droit de vote a été accordé aux femmes. Reconnues comme des citoyennes à part entière, elles devenaient enfin aptes, elles aussi, à faire progresser la société vers un devenir collectif. Dans sa jeunesse, elle vivait en colocation avec 2 copines, un scandale à l'époque, dira-t-on. Chaque fin de semaine, avec ses 2 colocs, elle s'amusait à pointer son index sur une carte, au hasard, pour choisir la destination vers laquelle elle s'évaderait ensemble, au volant de Bertha, sa petite voiture. Comme beaucoup d'autres femmes, ma mère, mon modèle, a balisé la route qu'allait emprunter la génération X. Ma mère s'est mariée tard, mais celle qui allait devenir la mère de 6 enfants n'a jamais quitté la maison par la suite. Sauf lorsque mon père est mort. À 52 ans, elle est alors retournée sur les bancs d'école pour obtenir un bac en littérature française et a occupé un poste en décontamination jusqu'à sa retraite. Elle en était fière. Elle ne manquait d'ailleurs jamais l'occasion de le mentionner, la poitrine bombée et le sourire aux lèvres, à chacune de nos réunions de famille. Ma mère n'a pas pour autant participé activement à la Révolution tranquille. Elle n'a pas brûlé son soutien-gorge sur la place publique. Cette révolution, elle l'a tranquillement vécue à la maison. Mais même derrière ses yeux de mère au foyer, elle était à sa manière féministe jusqu'au bout des ongles. Alors qu'elle servait le petit déjeuner à mon père, elle insistait grandement auprès de ses filles pour qu'elles n'en fassent rien avec leurs copains. Elle ne le savait peut-être pas, mais elle nous aidait ainsi à nous rapprocher encore un peu plus de l'égalité entre hommes et femmes. Aujourd'hui, je suis reconnaissante envers ces femmes qui ont pavé la route pour nous. Je ne prends rien pour acquis, ni l'égalité salariale, ni mon statut de directrice d'organisation. Je fais partie de la génération X, celle pour qui le féminisme veut certes encore dire quelque chose, mais qui n'a pas envie de faire du macramé avec ses poils de jambes. Je constate toutefois qu'il en va autrement de la génération Y. Je disais à mon fils, qui faisait partie de cette génération, qu'il devait travailler s'il voulait pouvoir payer un dîner à une fille, et lui de me répondre « mais elle se le paiera ». Heureusement pour la génération Y, il semble y avoir une meilleure harmonisation entre les genres. Désormais, une majorité d'hommes défend les droits des femmes à leur côté. J'observe également que la plupart des jeunes filles refusent même d'être étiquetées comme féministes. Peut-être sommes-nous désormais toutes féministes, sans même chercher à l'être, comme ma mère qui chuchotait à ses filles de ne pas servir leur homme comme elle le faisait. Mais nous ne devrions jamais oublier qu'il reste encore beaucoup de luttes à mener, comme celle pour une meilleure équité salariale, un droit à la parité, la lutte contre cette image formatée de la femme trop souvent véhiculée dans les médias. pour qu'ensemble nous puissions léguer une société plus équilibrée aux générations futures. Maintenant, une entrevue d'Isabelle Blé intitulée « Les mots pour vaincre les mots MAUX ». Les mots MOTS pour vaincre les mots MAUX. Une vague de dévoilement d'agressions sexuelles a lieu sur les réseaux sociaux depuis le mois d'octobre dernier. Celle-ci a été déclenchée par Sue Montgomery, qui a révélé sur Twitter avoir été agressée par son grand-père. C'est aussi l'affaire très médiatisée de Yann Comeschi, ex-animateur de CBC, faisant l'objet d'allégations de violences sexuelles qui a incité Sue Montgomery à agir. On assiste à un effet d'entraînement. Plus le sujet est discuté ouvertement dans les médias, plus les victimes parlent de ce qu'elles ont vécu. C'est dans ce contexte, dit Marie-Andrée B., chroniqueuse de rue à l'Itinéraire, que j'ai interviewé Isabelle Blé. L'actrice représente Trêve pour elle, un organisme à but non lucratif qui lutte à enrayer les agressions sexuelles en offrant des services d'aide aux femmes et des services de sensibilisation du grand public. Question. Comment es-tu devenue porte-parole de Trêve pour elle? C'est un concours de circonstances. J'ai joué le rôle d'Elena, une femme qui se fait utiliser à des fins d'exploitation sexuelle dans la télésérie Trafic humain. Une femme au passé trouble s'est identifiée à ce personnage et m'a remis une lettre lors d'un de mes spectacles de musique. Plus tard, nous nous sommes rencontrés et avec le temps, nous avons créé un lien. Cette femme recevait des services d'aide à Trêve pour elle et c'est grâce à elle que j'ai connu cette ressource. Sachant ce que je faisais pour cette femme, les travailleuses m'ont demandé de devenir leur porte-parole. C'est bizarre car avant d'entrer à l'école de théâtre, je désirais faire des études universitaires en travail social. Je suis fascinée par l'être humain. C'est l'une des raisons pour laquelle je suis comédienne. Je me glisse dans différentes peaux et je me mets à la place de l'autre et j'essaye de comprendre comment il peut se sentir. D'après toi, pourquoi les victimes d'agressions sexuelles gardent-elles le silence? Elles ont l'impression qu'elles sont responsables et qu'elles auraient dû voir venir le coup. Le sentiment de culpabilité et de honte engendre une peur du jugement. Même dans les cas où les femmes sont conscientes qu'elles ne sont aucunement responsables de l'agression, elles se sentent dépouillées d'une partie de leur pouvoir et affaiblies. Ça paraît mal dans une société de performance dans laquelle il faut être fort pour tout réussir. Personne ne veut être perçu comme une victime. Que penses-tu de la vague de dévoilement d'agressions sexuelles? Je salue le courage de celles qui brisent le silence. Je ne serai pas de la vague de dénonciation tout simplement parce que ça ne m'est pas arrivé. Mais quand j'y repense bien, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai minimisé des gestes, j'ai dû repousser des avances un peu trop intrusives. Je me suis fait pogner les fesses dans la rue, je me suis fait tâter le sein dans le métro, sans compter les remarques ou les sifflements sur la place publique. Je voudrais bien connaître la proportion de femmes ayant vécu ne serait-ce qu'un événement semblable au mien. C'est troublant de penser que c'est le cas pour la majorité des femmes et que ça ne change pas vraiment. Et puis je pense aux actes graves. Je salue celles qui se reconstruisent. Il est possible de retrouver une qualité de vie à la suite d'un travail de croissance personnelle. La preuve est faite puisqu'il existe des survivantes résilientes qui transmettent un message d'espoir. Quel message aimerais-tu transmettre? Aux hommes bons et dignes de confiance, je veux dire « rayonnez ». Continuez à être porteur de grandeur, de respect et d'amour. Mais surtout, réagissez à toutes ces injustices. Et à toutes les femmes qui ont souffert, j'ai envie de dire, ces hommes bons et fiers existent et sont bien plus nombreux que les minables. Sachez les chercher, les reconnaître, leur faire confiance et les aimer. C'était donc dans la revue L'Itinéraire du 1er mars 2015. Et maintenant, les mauvaises nouvelles. C'est donc dans la presse plus du 10 mars et c'est écrit par Olivia Lévy. Les mauvaises nouvelles, c'est stressant. Attention aux mauvaises nouvelles, ça pourrait gâcher votre journée. L'exposition à de mauvaises nouvelles a un lien direct avec le stress que nous vivons, dit Sonia Lupien, directrice scientifique au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et directrice du Centre d'études sur le stress humain. Elle fait une mise en garde contre l'impact des nouvelles négatives sur la réactivité au stress, surtout chez les femmes. Question. Notre cerveau est un détecteur de menaces ? Oui, le cerveau est un détecteur de menaces, c'est son travail. Dès qu'il va détecter une menace, il va produire une réponse de stress qui va nous amener à produire des hormones de stress qui vont nous donner l'énergie dont on a besoin pour survivre, soit combattre ou fuir. C'est un système qui a aidé à la survie de l'espèce, être capable de mobiliser l'énergie pour survivre. Que se passe-t-il quand on lit une mauvaise nouvelle ? Je me souviens que j'étais en train de lire mon journal un matin, à l'époque de la disparition de la petite Cédrica Provencher, qui avait l'âge de ma fille. Il y avait des interrogations sur le sujet, du genre « allons-nous la retrouver violée, assassinée ?» En lisant cela, j'ai senti en moi une vraie réponse de stress. Et je me suis dit, tiens, tiens, est-ce qu'il se pourrait que lorsqu'on lit de mauvaises nouvelles, on produise des hormones de stress parce que notre cerveau détecte une menace ? Je commence à comprendre pourquoi nous en produisons autant. Et j'ai cette chance de pouvoir faire des études dans mon laboratoire sur des choses qui me dérangent. Vous avez donc fait une étude sur l'effet des nouvelles négatives. L'étude, qui date de 2012, dont les médias n'ont pas parlé, posait la question suivante. Est-ce que le fait de lire des nouvelles négatives fait qu'on devient plus réactif au stress ? L'étude a été réalisée sur deux groupes, 30 femmes et 30 hommes, qui ont lu des nouvelles négatives et des nouvelles neutres. Après les avoir lues, les participants étaient exposés à un stress. Si vous avez lu des nouvelles négatives le matin, il a été prouvé que cela augmentera la réactivité au stress chez les femmes et non chez les hommes. Pourquoi plus chez les femmes ? On a interprété le résultat en se disant que les femmes ont tendance à ressasser davantage, ou encore que la mauvaise nouvelle doit rester plus longtemps dans leur mémoire. Elles ont aussi souvent plus d'empathie que les hommes. Il faut savoir que les hommes produisent 3 fois plus d'hormones de stress que les femmes quand on les stresse. Avec cette étude, c'est la seule fois où j'ai réussi à faire monter le niveau de stress des femmes plus haut que celui des hommes, et c'est en lisant de nouvelles négatives. Est-ce qu'on se rend compte de l'impact à long terme ? Il y a un prix à payer, et je ne sais pas si la société s'en rend bien compte. Depuis que je connais ces résultats, quand je suis dans une période de stress, car on en a tous, je ne lis plus les nouvelles. Je n'ai pas besoin de ce stress additionnel. Chaque fois que vous lisez ou regardez des nouvelles négatives, 365 jours par année, vous produisez trop d'hormones de stress toute l'année. Une chose est certaine, le stress chronique va jouer sur notre système immunitaire. On aura par exemple plus de grippe, une bronchite qui s'éternise, et il y a un coût de santé publique relié à cela. Quand votre corps produit des hormones de stress de façon chronique, ça donne lieu à des maladies reliées au stress chronique, des maladies mentales et physiques, et des dépressions pour les gens plus vulnérables. Que faire pour y remédier ? Je pense que les gens sont fatigués mentalement. C'est déjà bien de le savoir et de s'en rendre compte. Peut-être faudrait-il faire une distribution plus équitable du positif et du négatif dans les nouvelles. Ce qui me fascine, c'est que les nouvelles positives sont 4 fois plus souvent partagées par les utilisateurs de Facebook que les nouvelles négatives. Connaissant l'humain et sa capacité de s'adapter, il doit y avoir du changement, même s'il est déjà habitué aux images et aux nouvelles négatives. D'ailleurs, peut-être que ça nous rend encore plus réactifs. Quand j'écoute la radio et que je ne vais plus entendre des choses négatives ou un animateur qui s'énerve, je change de poste et j'écoute de la musique. Voilà ce qu'on peut faire. Vous pensez que nous allons avoir ce réflexe de ne plus lire ou regarder les mauvaises nouvelles ? Les gens ont besoin de renouveau. Est-ce qu'il y a un moyen de positiver un peu ? Peut-on offrir des pistes de solutions aux mauvaises nouvelles ? Quand ça va bien, on est capable de voir un film d'horreur ou un film difficile. Mais quand ça va mal, une comédie romantique nous fera du bien. Tout est relatif. Tout dépend de notre état du moment. Je sais où est mon point de résistance. L'instinct est là. Le cerveau est une machine à instinct. C'est ce qu'on appelle le savoir inné. Voilà, c'était Olivia Lévy dans La Presse Plus du 10 mars 2015.
Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y'en a qui fument des petits bouts, moi je mange. Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. J'aime mieux rester dans ma cuisine, puis je mange. Quand je vais chez vous, moi je mange. Je suis bien partout quand je mange. Quand je m'ennuie, moi je mange. Même dans mon lit, moi je mange. Mais y'a des jours où je suis complexée. Je me trouve pas bien, bien sexy. Quand je me regarde le profil dans le miroir.
Alors, vous avez sûrement reconnu Angèle Arsenault et son « Moi, je mange ». Belle introduction pour mon sujet suivant, qui s'intitule « Un petit déjeuner équilibré ». C'est dans la revue Le Bel Âge de mars 2015 et c'est écrit par Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition. Pourquoi déjeuner ? Selon les chercheurs, manger le matin aide à avoir une bonne régulation de l'appétit au cours de la journée. Sauter ce repas aurait en effet un impact majeur sur la façon dont on se nourrit dans les heures qui suivent. Par exemple, les collations seront plus nombreuses et riches en gras et en sel. De plus, on aura tendance à surconsommer des aliments à haute densité énergétique au repas. Ce qui fait que, des études le démontrent, les personnes qui mangent le matin sont plus minces que celles qui ne mangent pas. Ce n'est pas tout. En plus d'aider à contrôler le poids, le petit déjeuner favorise la concentration et assure un bon niveau d'énergie tout au long de la journée. Mais il faut déjeuner de façon sensée. Un petit déjeuner équilibré devrait être constitué d'aliments appartenant à au moins 3 des 4 groupes du guide alimentaire canadien. Il doit apporter environ 25% des calories quotidiennes, soit 500 calories pour un régime de 2000 calories par jour. On peut le composer avec les éléments suivants, des produits céréaliers, pain, crêpes, céréales, fruits et légumes, frais ou surgelés, en jus ou séchés, des viandes et substituts, jambon, œufs, arachides, noix, lait substitut, lait, boissons de soya ou autres boissons végétales enrichies, fromage, yogourt. La présence de protéines le matin est très importante. Celles-ci contribuent à l'effet de satiété et soutiennent jusqu'au prochain repas. Elles peuvent provenir du lait, d'un beurre de noix, d'œufs ou de fromage, par exemple. Il est primordial que ce repas renferme aussi des glucides. Comme il s'agit là du carburant principal des muscles et du cerveau, l'organisme en a grandement besoin après le jeûne de la nuit. Les sources de glucides sont par exemple les fruits, les céréales chaudes ou froides et le pain. Pas d'appétit au lever, que faire ? Certaines personnes n'ont pas faim le matin en se levant. D'abord, il faut savoir que manger tard en soirée n'est pas l'idée du siècle pour avoir de l'appétit au lever. Il vaut beaucoup mieux le faire au moins 2 heures avant le coucher. De plus, les aliments riches en gras exigent une digestion plus longue et difficile, on évitera de manger ce type d'aliments le soir. Un autre truc, prendre le temps d'être bien réveillé avant de déjeuner, se doucher, s'habiller, lire le journal, tout ça peut augmenter les chances que l'appétit se manifeste. Donc, facile à déduire, se lever à la dernière minute et devoir partir à la course, ça n'incite pas à prendre un petit déjeuner. Quelques trucs pour simplifier le déjeuner. Ayez toujours sous la main des aliments demandant peu de préparation. Fruits frais, céréales, lait, gruau, pain de blé entier. Mettez la table la veille. Quand les boîtes de céréales, le pain, les bols, les assiettes, les ustensiles sont sortis, le repas paraît simplifié. Vous êtes du genre boisson à emporter. Préparez la veille votre smoothie à base de lait, fruits et céréales. La crème Budweek fut jadis des plus populaires. C'est un mélange composé de fromage frais, de fruits, de céréales fraîchement moulues et de lait agineux. Créée par Johanna Budweek, elle a été reprise et popularisée par le docteur Catherine Kousmin. Elle est un petit déjeuner complet, entièrement cru et d'une haute valeur nutritive. À propos des tartinades, le commerce offre une grande variété de produits à tartiner. Le beurre d'arachide a l'avantage d'apporter le plus de protéines. Il soutiendra pendant une plus longue période. Mais attention à l'allégation « réduit en gras » sur de tels produits. Elle n'est pas toujours avantageuse, car s'il y a moins de gras, il peut y avoir plus de sucre. À retenir, les beurres de noix sont intéressants, amandes, acajou, noisettes. Cependant, le Nutella contient du sucre et de l'huile de palme essentiellement, et son contenu en noisettes est négligeable. Quant au caramel, à la tartinade à l'érable et aux confitures, ils apportent beaucoup de sucre et bien peu de protéines. Ils peuvent donc être consommés en petite quantité si l'on ajoute une autre source de protéines au repas, comme un œuf, un morceau de fromage ou un yogourt. Le beurre et la margarine ne fournissent pas non plus les précieuses protéines qui soutiendront durant la matinée. Bien que le fromage à la crème et le cheese whiz ne valent pas le vrai fromage, ils sont relativement peu caloriques et fournissent un peu de protéines. Les céréales à déjeuner, comment s'y retrouver ? Un bol de céréales arrosé de lait ou de boisson de soya enrichie, puis garni de fruits, est aussi un excellent déjeuner. Encore faut-il choisir les bonnes céréales. Les critères nutritionnels à rechercher par portion de 30 grammes sont ceci. 4 grammes de fibres ou plus. 5 g de sucre ou moins, 3 g de gras ou moins. Maintenant, café ou thé. Il n'y a aucun problème à prendre le café le matin. Un café moyen apporte 100 mg de caféine et Santé Canada recommande de ne pas dépasser 400 mg de caféine par jour. Certaines études tendent à valoriser la consommation de café pour la prévention de certaines maladies, dont le diabète de type 2 et l'Alzheimer. Cela dit, le thé est plus riche en antioxydants et représente aussi un bon choix. Peu importe la boisson chaude élue, on évitera d'ajouter du sucre et on préférera le lait à la crème. Combien d'œufs par semaine ? Qu'ils soient bruns ou blancs, les œufs ont la même valeur nutritive. C'est uniquement la race de la poule pondeuse qui est responsable de la couleur de la coquille. L'œuf est un aliment possédant une valeur nutritive très intéressante. Il renferme des protéines de grande qualité, puisqu'on y retrouve les 8 acides aminés essentiels que le corps humain ne peut synthétiser. Par ailleurs, il est vrai que l'on trouve dans le jaune de l'œuf des gras trans et saturés, ainsi que du cholestérol. Or, ce sont surtout ces gras qui ont un impact sur le cholestérol sanguin. Mais ces gras ne sont présents qu'en petite quantité dans les œufs. La plupart des gens peuvent donc manger un œuf par jour sans voir leur taux de cholestérol grimper. Voilà, c'était quelques conseils pour un petit déjeuner équilibré par Isabelle Huot dans la revue Le Bel Âge de mars 2015. Alors, quelques brèves. Une qui fait suite à l'article que je viens de lire. Ça s'appelle « La poule aux œufs verts ». Après les œufs blancs et les œufs bruns, voici les œufs verts. La ferme des Patriotes, filiale de la ferme Saint-Ours en Montérégie, produit désormais des œufs d'un vert tendre, gracieuseté de poule issue de races anciennes qu'elle a acquises l'automne dernier. De quoi faire sensation à votre brunch de Pâques ou à la Saint-Patrick. Jaguar pense vélo. La Britannique Jaguar Land Rover a conçu une voiture sensible aux cyclistes et aux piétons. Dès qu'un de ses capteurs périphériques détecte la présence d'un vélo, par exemple, une alarme sonore et visuelle s'active pour en avertir le conducteur. Mieux, si le véhicule est arrêté et qu'un cycliste est tout près, les poignées des portières vibrent et s'illuminent, ce qui indique aux passagers d'attendre avant d'ouvrir. Jaguar prévoit une mise en marché d'ici 2 ans. Alors maintenant, c'est la pause. Vous revenez après ?
Écoutez Kiosque Magazine.
Alors, de retour après la pause, 4 portraits de femmes de l'ombre écrits dans la revue L'Itinéraire du 1er mars 2015. Le 8 mars de chaque année, la Journée internationale de la femme donne lieu à son lot de palmarès de femmes d'affaires, d'athlètes, des musiciennes, des leaders de demain ou d'aujourd'hui. L'équipe de L'Itinéraire vous présente 4 femmes au travail admirable, impliquées dans leur communauté, mais dont on entend peu parler. Une est médiatrice intellectuelle, l'autre entrepreneur, une autre organisatrice communautaire et chercheuse. Ces femmes que nous présentons travaillent chacune à sa manière pour améliorer le sort des autres. Si le 8 mars est le moment désigné pour souligner l'apport social des femmes, leur travail s'effectue à longueur d'année, loin des projecteurs. Et certaines de celles que nous avons rencontrées s'en contentent très bien. La première, Nadia Duguet. L'apprentissage a double sens. L'inclusion sociale, pour moi, c'est que chacun ait en main les outils d'esprit critique nécessaires à l'inclusion au sein de la société, au lieu de tenter d'intégrer des gens dans une société malade, estime Nadia Duguet, cofondatrice et codirectrice générale d'Execo, E-X-E-K-O. La pétulante jeune femme croit au potentiel de chacun et met tout en œuvre pour le prouver. Après s'être impliquée dans la grève étudiante de 2005, Nadia Duguet a développé un projet pilote de partage philosophique avec des prisonniers. Il y a une part de la philosophie qui vient, selon moi, de l'intuition et qui est accessible à tous, croit-elle, incluant les gens socialement marginalisés. Cette expérience d'échange intellectuel sans contenu moralisateur est le fondement de ce que sera l'organisme Execo, inauguré en 2010. Il ne faut pas être surpris si son nom ne vous dit rien. Nadia Duguet n'aime pas l'attention médiatique. « Il est très important pour moi de rester humble, ça vient de mes racines », explique-t-elle, visiblement mal à l'aise. Des racines qu'elle veut garder privées, même si elles sont inhérentes à son identité et à son travail. Née dans une petite communauté de pêcheurs de la Gaspésie, Nadia Duguet raconte qu'il y existe un curieux mélange de résignation et de frustration envers les preneurs de décisions politiques. On y vit une forme de tutelle, où l'on a intégré l'idée que quelqu'un d'autre va prendre des décisions et s'exprimer à notre place. Le résultat de ces sentiments est une posture d'exclusion et d'auto-exclusion. soit un groupe qui refuse et se voit refuser une voix dans le discours public. Une situation inacceptable soutient l'entrepreneur social. Selon Nadia Duguet, Execo fait de la médiation intellectuelle par l'entremise de l'élaboration d'espaces de rencontres improbables où l'on se situe tous dans une présomption d'égalité. En des termes plus simples, elle crée un prétexte pour une rencontre sans jugement entre différents membres de la société. Cette idée transparaît dans le nom de l'organisme du latin ex aequo, qui veut dire d'égal à égal. Originalement, elle ne concevait pas que le projet prenne l'ampleur qu'il a aujourd'hui, avec plus de 150 ateliers de médiation à son actif depuis son inauguration. Pourtant, ce travail est une nécessité évidente selon la cofondatrice, autant que pour les gens marginalisés que pour le reste de la société. Ce n'est pas dans la rue qu'il est difficile de faire comprendre que l'égalité intellectuelle existe, mais plutôt auprès du grand public, explique-t-elle un peu découragée. Un découragement qui ne s'améliore pas lorsqu'elle réfléchit sur la condition de la femme. Nadia Duguet ne mâche pas ses mots. Selon elle, il y a une présomption d'inégalité de l'intelligence des sexes construite par une société de mépris. Elle admet qu'elle ne se sent pas à l'aise et bien outillée pour commenter ce sujet en profondeur, estimant qu'elle a une vision encore bien naïve de la situation. Néanmoins, elle conclut qu'il existe une dynamique de hiérarchisation sociale posée sur la capacité intellectuelle et de leadership des femmes, un constat qui l'inquiète profondément. Il reste donc beaucoup de travail à faire avant d'arriver à une société inclusive. Maintenant, travailler pour soi. Je ne veux pas reprendre les mêmes modèles économiques et sociaux qu'autrefois. Les profits à tout prix, ça ne m'intéresse pas, lance fièrement Lise Suarez-Wiesbal, directrice de l'organisme d'entrepreneuriat social FEM International. Madame Suarez-Wiesbal a un parcours des plus particuliers. Née en Colombie, elle y étudie la finance, ensuite les relations internationales à Harvard aux États-Unis. Elle se déniche rapidement un emploi à Boston au sein d'une banque d'investissement. Pourtant, cette vie de confort et de sécurité ne lui plaît pas. C'est en faisant du bénévolat chez un organisme d'aide aux immigrants qu'elle trouve sa réelle passion, l'autonomisation des femmes. Suivant ses instincts, Lise Suarez-Wiesbal quitte son emploi et, malgré l'incompréhension de ses proches, se retrouve en Thaïlande à travailler pour une coopérative d'aide auprès de jeunes femmes victimes du trafic humain. Une tâche dure, mais souvent gratifiante. Un jour, raconte-t-elle, une des filles qui faisait le programme d'entrepreneuriat m'a offert un mouchoir qu'elle venait de créer. Dessus, elle avait teint l'image d'une femme rêvant d'un monde meilleur. J'ai su à ce moment ce que je voulais faire de ma vie. Cette détermination à écouter son cœur n'est pas née du hasard. Mes parents ont toujours fait ce qu'ils voulaient, explique-t-elle avec le sourire. Ils ont été une influence déterminante dans ma vie. Son père a toujours pratiqué le droit en soutenant des causes qu'il jugeait importantes, alors que sa mère, elle-même entrepreneur, était une pionnière du milieu. Moi-même, une entrepreneure d'aujourd'hui, je réalise enfin l'influence qu'ils ont eue sur moi, particulièrement celle de ma mère, admet-elle. Chez FEM International, un organisme qui vise l'autonomisation des femmes immigrantes, c'est cette même inspiration qu'elle essaye de transmettre à une nouvelle génération de femmes. Selon Mme Suarez-Wiesbal, Montréal est l'endroit idéal pour travailler à l'autonomisation des femmes. C'est une ville d'ouverture et de culture. Pourtant, au Québec, nous ne sommes pas encore arrivés à une société égalitaire. Malgré les pas de géant réalisés par les militantes féministes ces dernières années, il reste encore du travail à faire, surtout en matière de consolidation des acquis sociaux. Une réalité très importante, surtout si l'on considère que plusieurs des immigrantes arrivent de sociétés plus machistes que leur terre d'accueil. C'est pourquoi, selon elle, l'autonomisation des femmes est doublement indispensable. Madame Suarez-Wiesbal est convaincue que l'entrepreneuriat est un excellent moyen d'autonomiser un individu. Les immigrants sont des entrepreneurs naturels, explique-t-elle, puisqu'ils doivent s'adapter à un nouveau monde, ils doivent repenser leurs idées et leurs acquis. C'est aussi une façon d'apprendre de nouvelles compétences, autant dans le travail du textile et de la mode que par la vente chez soi. C'est ce qu'elle cherche à faire avec son dernier projet, Éthique, qui est à la fois une boutique de vêtements et un centre de formation misant sur le développement éco-responsable et l'entrepreneuriat social. Une idée prometteuse qui, à ce jour, a permis à des dizaines de femmes d'être leur propre patronne. Voilà, ces deux articles, celui de Lise Suarez-Wisbal et celui de Nadia Duguet, étaient écrits par Isaac Gauthier dans la revue L'Itinéraire du 1er mars 2015. Alors, troisième portrait de Vida Larivière, ça s'intitule « La vérité qui dérange ». À la mi-décembre 2012, le mouvement Idle No More prend de l'ampleur. Depuis le début du mois, les communautés autochtones multiplient les actions. C'est un ras-le-bol collectif devant les changements législatifs cumulés du gouvernement conservateur. Vida Larivière et Mélissa Mollen-Dupuis s'échangent des messages sur Facebook se demandant ce qu'il y a de prévu au Québec. « Rien », répond l'une. « On fait quelque chose », relance l'autre. Depuis, Vida Larivière est devenue, avec Mélissa Mollen-Dupuis, une des figures publiques de Idle No More Québec. Le mouvement national connecte les multiples luttes autochtones du pays, tout en stimulant un dialogue avec le reste de la population canadienne, notamment grâce à un vaste élan d'éducation populaire. Ce désir de connecter les luttes et d'assurer un dialogue entre autochtones et non-autochtones semble aller de soi pour cette femme née d'un père québécois et d'une mère autochtone. « Je m'identifie comme algonquine, même si j'ai un parent québécois », répond Vida Larivière lorsqu'on le lui demande. Elle est une fière héritière d'une lignée maternelle originaire de la communauté de Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue. Son père est originaire du Bas-Saint-Laurent, et c'est à Québec que ses parents ont élevé leurs enfants. Au cours de ses études collégiales, elle a découvert le lourd héritage porté par les femmes de sa famille. Découvrir l'expérience de sa grand-mère maternelle dans les pensionnats pour enfants autochtones fut un véritable choc. « Ça m'a bouleversée », admet-elle. « À la même époque, j'apprenais l'histoire de la colonisation et des tactiques d'assimilation auxquelles les autochtones ont fait face. Ce que je n'avais jamais appris à l'école, ça m'a révoltée. » C'est dans cette mémoire douloureuse, tout autant que dans l'ardeur des générations de militants qui ont lutté pour la reconnaissance des droits autochtones, qu'elle trouve aujourd'hui sa force. C'est très motivant. Si je peux honorer tous ces militants qui m'inspirent en continuant ce qu'ils ont commencé, précise-t-elle. J'essaye de respecter le principe autochtone, demandant de penser aux 7 prochaines générations. Alors, si je peux contribuer au changement social, même à très long terme, c'est assez pour moi. Lors de son passage à l'université en études internationales, elle s'implique auprès de l'association d'étudiants autochtones et rencontre pour la première fois des gens des autres nations autochtones du Québec. Ça m'a ouvert les yeux sur les réalités des autres communautés et en même temps sur les nombreuses réalités communes. Elle saisit toutes les occasions pour approfondir son intérêt pour les questions autochtones. J'ai toujours voulu travailler pour la défense des droits humains en général. Et j'ai fini par voir le lien avec les luttes autochtones d'ici. Après ses études universitaires, elle se joint à l'équipe de Femmes autochtones du Québec, où elle assure présentement la coordination du programme Jeunesse. La présidente de l'époque, Hélène Gabriel, était un modèle pour elle. Porte-parole de la nation Mohawk lors de la crise d'Oka, Madame Gabriel est connue pour sa force de caractère et son combat pour une plus grande participation des femmes aux instances politiques autochtones. Elle m'inspire beaucoup, même si certains la trouvent dérangeante, affirme la militante. On dérange quand on utilise des termes qui sont juste la vérité, comme parler de génocide ou de féminicide pour décrire l'expérience des peuples et des femmes autochtones. Pour Vida Larivière, ce n'est pas la personne qui utilise le terme qui est dérangeante, mais plutôt les interlocuteurs qui vivent dans le déni. Enfin, le dernier portrait, et c'est celui de Maria Nengue-Mansa, et c'est intitulé « Intellectuelle de terrain ». Auteure, chercheure, enseignante et organisatrice communautaire, la professeure à l'école de travail social de l'UQAM, Maria Nenge Mansa, travaille depuis 25 ans pour les droits des femmes marginalisées. Élevée par sa mère dans un quartier où relations abusives et consommation de drogue étaient courantes, elle a su voir les regards biaisés des autres comme autant de défis à relever et de pistes de recherche à explorer. Depuis ses premières années à travailler de soir comme intervenante dans un centre d'hébergement pour femmes itinérantes, Madame Nenge Mansa semble s'être donnée pour but d'aider les marginalisés à se faire entendre. Prudente dans ses interactions avec les médias, elle reste soucieuse de ne pas parler à leur place. Lors d'une rencontre du SPVM pour leur plan quinquennal de lutte contre l'exploitation sexuelle, il a fallu que je répète exactement ce qu'une travailleuse de sexe venait de leur dire pour que les policiers en tiennent compte, s'insurge Madame Nenge Mansa. Je leur ai dit qu'elle venait de dire la même chose que moi. Il y a un problème si l'on continue à fonctionner comme ça. Au cours de nombreuses rencontres avec ces femmes, elle a vu comment elle n'avait pas attendu personne pour s'organiser. Je trouve cela très inspirant. Ça me fait mal de voir à quel point ces femmes-là étaient et sont encore rejetées pour des raisons vraiment irrationnelles, s'indigne-t-elle. Je me sens aussi concernée, et si je peux participer à renforcer leur voix ou à amplifier ce qu'elles ont à dire, tant mieux. Le mépris généralisé à leur encontre reste difficile à accepter. Une stigmatisation que partagent les femmes porteuses de VIH et celles exerçant comme travailleuses du sexe. Lorsqu'elle a commencé sa maîtrise en sexologie il y a 25 ans, elle s'attendait à faire une dizaine d'entrevues avec des femmes sidéennes. Elle s'est rapidement retrouvée avec une cinquantaine de témoignages en promettant d'en faire bon usage. C'est la mesure de l'implication de Madame Nenge Mansa. Tout en poursuivant une maîtrise en sexologie, un doctorat en communication et ensuite une carrière académique au département de travail social de l'UQAM, la chercheuse s'est impliquée avec SIDA Bénévole Montréal, a participé à la fondation du Centre de ressources et d'intervention en santé et sexualité et a accompagné dans diverses fonctions l'organisme Stella, créé pour et par des travailleuses du sexe. Dans les années 1990, le SIDA tue beaucoup. C'était avant les thérapies pharmaceutiques. La succession de décès dans son entourage a un impact émotionnel sur la chercheuse. Des enterrements, des services funéraires, il y en avait presque un par mois, se rappelle-t-elle. Tu es là comme bénévole à faire le café et tu te rends compte que sa famille n'est même pas là. J'ai trouvé ça très dur. C'est là que je me suis dit que je ne pouvais pas rester dans l'intervention, que j'avais besoin d'avoir un regard plus macro, de voir d'où vient ce manque de respect envers ces personnes. Une partie de ses recherches s'attarde à faciliter les analyses faites à la base par les femmes mêmes qui sont les sujets des discours stigmatisants sur le travail du sexe. Un exemple de cette articulation des logiques militantes et intellectuelles fut l'organisation du forum 3X, une rencontre internationale de travailleuses et travailleurs du sexe tenue à Montréal en 2005. C'était supposé être une rencontre entre féministes et travailleuses du sexe, mais les femmes nous ont dit « On ne veut pas rencontrer les féministes, on veut être entre nous. » Ce fut vraiment une leçon d'humilité. C'est ce qui me motive chaque fois qu'une travailleuse du sexe se lève et prend parole, même si ça veut dire que quand elle prend sa place, moi, je débarque. Voilà, donc c'était le portrait de Maria Nenge Mansa et celui précédemment de Vida La Rivière était écrit par Gopessa Paquette dans la revue L'Itinéraire du 1er mars 2015.
Viens voir de près ces femmes mûres. comme les fleurs ne sont que quelques-unes. Solitaire dans la foule comme en forêt. Femme de rêve, femme d'espoir heureux. Comment puis-je faire pour être plus près de vous en restant libre? Va voir de près ces femmes multicolores. Comme les fleurs ne sont que quelques-unes. Solitaires dans la foule comme en forêt.
Alors, c'était « Femme de rêve » de Claude Dubois. Alors maintenant, un sujet vraiment différent qui s'intitule « Gare au syndrome du canal carpien ». C'est dans la revue « Le Bel Âge » de mars 2015 et écrit par Jacqueline Simoneau. Ressentez-vous souvent des engourdissements et des picotements aux mains et aux doigts? Si c'est le cas, vous souffrez peut-être du syndrome du canal carpien. Cette affection se produit à tout âge, mais on la rencontre surtout chez les personnes de plus de 50 ans. Voilà quelques informations utiles sur ce malaise extrêmement courant. Qu'est-ce que le syndrome du canal carpien? Ce syndrome résulte de la compression du nerf médian au niveau du poignet. Le canal carpien est un tunnel situé entre les os du poignet et le ligament transverse du carpe qui entoure le poignet. Dans ce canal étroit se trouvent des tendons fléchisseurs qui permettent de plier les doigts et le pouce, ainsi qu'un nerf médian qui donne motricité et sensibilité au pouce, à l'index, au majeur et à une partie de l'annulaire. Lorsque les tendons enflent, ils font pression sur ce nerf qui se trouve alors coincé. C'est le début du syndrome. Quels sont les symptômes? Le syndrome se manifeste par des engourdissements, des picotements, une impression de lourdeur ou d'enflure, une sensation de brûlure et de douleur à la main, aux doigts et parfois même à l'avant-bras. Les symptômes sont particulièrement intenses durant la nuit et au réveil. À la longue, on note une perte de sensibilité, de force musculaire et de dextérité. Ceux qui sont touchés deviennent maladroits. Ils laissent tomber les petits objets ou ont de la difficulté à les saisir. Ils ont du mal à réaliser des tâches simples comme tourner une clé dans la serrure, lacer leurs chaussures, boutonner leurs vêtements, se brosser les dents ou écrire. Plus la maladie progresse, plus les symptômes s'accentuent. Au début, ils sont légers et temporaires, mais avec le temps, ils peuvent devenir permanents et irréversibles. Les deux mains peuvent être affectées, mais pas nécessairement de façon symétrique. Souvent, une main est atteinte plus sévèrement que l'autre, et pas en même temps. Quelles sont les causes? On sait que les fluctuations hormonales jouent un rôle important dans l'apparition du syndrome, notamment durant la ménopause. Ce qui explique sans doute que 3 fois plus de femmes en sont atteintes que les hommes. Un kyste, une tumeur ou une inflammation peut produire une enflure qui fait pression sur le nerf médian et contribuer ainsi à l'apparition du syndrome. Tout comme l'âge, les traumatismes, les lésions du poignet et certaines maladies non contrôlées, comme le diabète, l'hypothyroïdie, l'insuffisance rénale, peuvent accroître le risque. Un problème anatomique, tel un canal carpien trop étroit, peut aussi être en cause. Par ailleurs, bien que les chercheurs n'aient pas établi avec certitude un lien direct entre les mouvements répétitifs ou effectués avec force et le syndrome du canal carpien, le risque paraît bel et bien réel. Il serait particulièrement élevé chez les travailleurs exécutant des gestes répétitifs des mains et des poignets durant de longues périodes, comme les coiffeurs, les esthéticiennes, chauffeurs de camions ou d'autobus,
personnes travaillant sur des chaînes de montage ou manipulant des outils qui produisent une vibration ou une percussion. De même que chez les personnes s'adonnant à certains sports et loisirs pendant plusieurs heures, recherche à l'ordinateur, jardinage, travaux d'aiguille, tennis. Les cyclistes qui font de longues randonnées sont également nombreux à éprouver les problèmes en raison de la position d'appui des mains et des poignets sur le guidon. Le tabagisme et l'obésité constituent des facteurs de risque, mais parfois aussi le syndrome du canal carpien survient sans cause apparente. Comment se fait le diagnostic ? Lors de la visite médicale, le médecin questionne le patient sur ses symptômes et effectue un examen clinique de la région touchée. Le signe de Tinel fait partie des tests pratiqués durant l'examen. Il consiste à taper légèrement du doigt sur la face dorsale du poignet pour voir s'il y a des fourmillements ou de la douleur dans la main. Si nécessaire, le médecin peut demander certains examens, dont un électromyogramme, pour confirmer le diagnostic. Il importe de diagnostiquer et de traiter le syndrome du canal carpien rapidement afin de prévenir son aggravation et des séquelles permanentes. La chirurgie ne parvient pas toujours à renverser complètement la perte de sensibilité et l'atrophie musculaire subie au fil des ans. Or, l'usage des mains est essentiel au maintien de l'autonomie. Quels sont les traitements ? Une fois le diagnostic confirmé, divers traitements peuvent être employés pour soulager la douleur et rétablir la sensibilité de la main. L'arrêt temporaire des mouvements responsables du traumatisme et le repos de la main suffisent parfois à faire disparaître les manifestations. Des analgésiques ou des anti-inflammatoires, des applications de froid ou de chaleur, tout comme la physiothérapie, aident à apaiser les symptômes. Une injection de cortisone dans la zone touchée procure un soulagement temporaire, en moyenne 3 mois. Il faut cependant éviter les injections à répétition. Elles masquent la douleur, mais aussi la compression, ce qui peut entraîner des séquelles permanentes. Le port nocturne d'une orthèse ou d'une attelle est également recommandé pour empêcher de plier le poignet et de comprimer le nerf médian en dormant. L'orthèse ou l'attelle doit cependant être portée uniquement durant la nuit, et ce pendant une période maximale de 6 semaines. Après ce laps de temps, on pourra voir si l'un ou l'autre appareil a réglé le problème ou s'il y a récidive. Lorsque les symptômes persistent, une intervention chirurgicale peut être nécessaire. Elle consiste à sectionner le ligament transverse du carpe pour agrandir le canal et décoincer le nerf médian. La chirurgie réalisée sous anesthésie locale se pratique de deux façons, par incision dans la paume de la main ou par endoscopie. Et enfin, comment prévenir le syndrome ou une récidive ? Il faut adopter de bonnes habitudes. Reposer régulièrement les poignets ou les mains durant l'exécution de tâches répétitives. Pratiquer des exercices d'étirement des avant-bras et des poignets plusieurs fois par jour. Modifier la position de travail. Travailler en utilisant en alternance les deux mains. Éviter d'avoir le poignet plié vers le haut en manipulant la souris de l'ordinateur. N'utiliser des outils qui vibrent que pendant de courtes périodes. Diversifier les tâches, perdre du poids, arrêter de fumer. Il convient aussi de contrôler les maladies sous-jacentes comme le diabète ou de traiter les blessures qui pourraient être la cause du syndrome. On conseille aux cyclistes de modifier l'angle d'appui et de diminuer le poids qui repose sur les mains et les poignets en essayant différentes formes ou positions de guidon et en ajustant la hauteur du siège. Voilà, c'était donc quelques conseils pour prévenir ou traiter le syndrome du canal carpien dans la revue Le Bel Âge de mars 2015, écrit par Jacqueline Simoneau. Alors voilà, sur ce, je termine cette émission de Kiosque Magazine du lundi 16 mars 2015. Je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui sur nos ondes. Merci à Jean-Sébastien Laliberté pour les choix musicaux, la technique et le soutien. C'est Franceline Yeuviard qui vous dit à bientôt. Passez une semaine remplie de douceur et soyez au rendez-vous lundi prochain. Au revoir.